Bonsoir à tous et à toutes, 20h passées de quelques secondes dans les studios de Radio Liban 96.2 FM. Comme je vous l'ai annoncé le week-end passé, nous accueillons ce soir dans les studios de Radio Liban 96.2 FM le compositeur, performeur de musique électronique et électroacoustique Tarek Atwi en interview et en live dans les studios de Radio Liban 96.2 FM. Tarek Atwi est un acteur extrêmement discret de la scène expérimentale électronique libanaise. C'est quelqu'un qu'on voit assez peu sur scène, c'est quelqu'un qui n'habite pas nécessairement au Liban, c'est quelqu'un qui est très nomade aussi, comme il va nous le dire tout à l'heure. Quelqu'un donc qui est là et qui n'est pas là en même temps, et ceci lui confère un drôle de statut dans cette scène électronique expérimentale libanaise. Tarek Atwi, bonsoir.
Salut Ziad.
C'est un plaisir de t'accueillir dans les studios de Radio Liban pour cette première interview. Je suis certain qu'il y en aura d'autres.
Merci beaucoup, merci à toi de m'accueillir ici.
C'est tout à fait mon plaisir. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours musical, de la façon dont tu as commencé dans le monde de la musique électronique. Est-ce que pour toi ça a été direct, les ordinateurs, les sampleurs?
En fait, mon histoire a commencé avec la musique quand j'ai quitté Beyrouth à 18 ans. Je suis parti étudier en France. Et en France, j'ai commencé en étant DJ. DJ de musique électronique, de techno, de drum and bass. Et pendant 2 ans, j'ai fait ça dans la scène nantaise, donc en Bretagne, surtout en Bretagne en fait. Et Un an et quelques après, ça m'a un peu lassé. Je voulais vraiment, en fait, triturer les vinyles et les distordre pour me les approprier.
Passer quelque part au-delà de la simple écoute et faire écouter les disques, en fait.
Voilà, c'est-à-dire que je me sentais vraiment jouer quand on reconnaissait plus les disques de départ. Et au bout d'un moment, le mix ne suffisait plus. Donc ça m'a un peu poussé vers le platinisme, le turntablism en fait. Et de là, j'ai bougé à Reims après pour mes études. Et il y avait une classe d'électroacoustique et de musique électronique au Conservatoire national de Reims. Et à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer faire des études de musique au conservatoire. Et finalement, j'ai obtenu mon diplôme d'électroacoustique en composition et en programmation informatique.
Tu m'as expliqué il y a quelques jours de cela que le diplôme d'électroacoustique te permet de partir dans trois orientations différentes.
Oui.
Et pour toi, quelle est l'orientation que tu as choisie? Ou peut-être devrait-on dire quelles sont ces trois orientations d'abord?
Voilà. Alors, quand on fait ce genre d'études, il y a trois axes majeurs, comme tu dis. Le premier étant la composition en studio, tout le travail de composition sur bande qui se fait en studio et donc qui se prête après à écoute. Il y a le travail de prise de son, c'est-à-dire tout le travail à base de micro qui débouche après sur les métiers de prise du son par rapport au cinéma, par rapport aux arts visuels. Et il y a l'aspect le temps réel et l'interaction et la performance en fait. Et qui a plus rapport à la programmation informatique, aux utilisations des nouvelles technologies. Et en fait, c'est la branche que j'ai choisie. Parce que, on en parlait l'autre jour très vite, une des choses qui m'ont concerné dès le départ, et surtout que j'étais DJ d'abord, c'était la scène. Et ça m'intéressait beaucoup parce que je travaillais avec un médium de musique expérimentale bizarre, de donner des clés de lecture aux gens qui m'écoutent et qui me voient. Et donc pour moi, l'aspect scénique et la performance étaient très importants à développer dès le départ, et j'ai choisi ce travail-là.
On va expliquer très très rapidement comment est-ce que l'électroacoustique diffère de l'électronique, parce que les auditeurs de Radio Liban et surtout les auditeurs de ces émissions connaissent l'électronique à travers des musiciens locaux comme Moonma, comme Trash Inc, Nabil
Oui.
Saliba, Jawad Naufal,
Bien sûr.
et connaissent cette musique comme une musique plutôt mélodique, alors que l'électroacoustique n'est pas nécessairement une musique mélodique, une approche de la mélodie, c'est plutôt quelque chose de fracturé, n'est-ce pas?
Oui, ça dépend de ce qu'on entend par fracture, mais effectivement, en
Écoute,
fait.
cette émission s'appelle Rupture. Donc,
Ah, bah super.
tu es bien placé.
Je suis bien placé. Non, mais en fait, avec l'électroacoustique est un courant musical qui a commencé en fait en 1948 avec un monsieur très respecté qui s'appelle Pierre Schaeffer, qui à un moment a eu une approche différente de l'analyse musicale et du son, et qui s'est dit que plutôt que d'approcher la musique par rapport à ses paramètres de musique classique et aux partitions, on pouvait avoir une approche qui est basée sur les propriétés physiques du son. C'est-à-dire que Pierre Schaeffer, il a écrit Le solfège de l'objet sonore, qui est un manifeste sur l'approche du son, où il disait qu'il y a quatre paramètres fondamentaux pour analyser tout son ou toute musique qui nous parvient en fait. Et ces quatre paramètres sont la durée du son, son intensité en décibels, sa fréquence fondamentale qui détermine la note en hertz, et le timbre du son. Et à partir de là, c'est aussi à replacer dans le contexte historique du moment où on avait les premiers micros qui émergeaient, les premières enceintes, la possibilité d'enregistrer du son, de faire du montage sur les vieux magnétophones à bobine. Et de là, on a commencé à considérer que n'importe quel son dans la nature qu'on peut capturer et rediffuser, reproduire, est un élément de composition. Et la musique électroacoustique est née de ça, en fait. Et après, bon, l'évolution de la musique électroacoustique, il y a eu plusieurs courants. Là-dedans, il y a eu, par exemple, le courant de la musique concrète, qui sont des compositeurs qui ne travaillent qu'à base de sons enregistrés, comme les sons urbains, les sons de la nature, et qui en font des pièces musicales. Il y a la musique radiophonique, qui est donc tout un courant de musique qui a été beaucoup inspiré par la radio à l'époque et par les interférences radio et aussi par la narration qu'on pouvait intégrer dans la musique à travers l'usage de situations cinématographiques ou de cas comme ça. Et puis il y a la musique électroacoustique qui est à l'origine de la musique électronique. D'ailleurs, tout ça est à l'origine de la musique électronique, mais où on s'est intéressé à la synthèse sonore, c'est-à-dire à la reproduction de nouveaux sons, surtout avec la naissance des premiers synthés et aussi des premiers ordinateurs à la fin des années 70. On a commencé à reproduire et à créer déjà à reproduire des sons d'instruments déjà existants et à créer d'autres. Et maintenant, moi personnellement et beaucoup de compositeurs électroacoustiques, il y a une école électroacoustique, c'est sûr, mais les frontières entre musique électronique telle qu'on la connaît ici au Liban et telle que la musique électronique populaire, entre guillemets, comme on dit,
est perçue.
Et voilà, les frontières entre cette musique-là et la musique électroacoustique, dite musique entre guillemets aussi savante, sont de plus en plus difficiles à séparer, en fait. Et du coup, moi, je me définis maintenant comme compositeur de musique électronique électroacoustique.
À propos de composition, tu nous as composé un morceau exprès pour cette émission. Je pense que tu nous as passé en ouverture.
Salon.
C'est un morceau qui, il m'a semblé, est composé de différents samples, de différentes sources. C'est bien ça, j'ai cru reconnaître la voix de Kurt Cobain à un moment.
Exact.
Comment se passe ce processus de composition? Tu ramènes différents sons et tu les
Alors, dans cette pièce-là, Salon, c'est moi avec plein d'amis, dont Kurt Cobain, dont Haddad, dont Astor Piazzolla, Carlos Gardel. Et l'idée de ce morceau, c'était de reproduire une esthétique électronique avec que des sons pris de morceaux. Donc, il n'y a aucun effet, c'est que du montage de sons pris dans des morceaux, des samples, en fait, et qui sont organisés et orchestrés de façon inspiré par l'esthétique des musiques électroniques, donc un rythme un peu régulier, des cassures un peu à la hip-hop, breakbeat, et après il y a une espèce de
espèce de cheminement en fait qui est assez clair du début à la fin,
oui,
malgré le fait que le morceau soit composé de différentes fractures. On revient là-dessus.
Exact. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce morceau, c'est que là-dedans, moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on pouvait arriver à reproduire quelque chose d'électronique sans utiliser beaucoup les effets et les sonorités qu'on entend souvent maintenant dans le monde de l'électro, en fait. Et c'est une espèce de manifeste où je dis j'ai envie de rompre avec ça et de faire la même chose, mais autrement, quoi.
On va à présent écouter un titre d'un album que tu as sorti pour un label allemand, si je ne me trompe pas.
Exact.
Le label s'appelle Stahlplatte.
C'est ça.
Est-ce que c'était une expérience positive pour toi de sortir ce disque?
Alors, l'expérience de ce disque, elle est très particulière. Parce que déjà, Stahlplatte, qui est un label notoire, c'est un label plus âgé que moi. Il a plus que 30 ans maintenant, ce label-là. Et il a produit beaucoup d'artistes de musique électronique très connus, comme Muslim Ghost, Pansonic, Ryoji Ikeda, Jim O'Rourke, ont fait leur début sur ce label-là, en fait. Et j'ai été très, très content quand Stahlplatte m'a proposé de sortir un disque, surtout que moi, je n'avais jamais essayé de sortir de disque, parce que ma pratique est vraiment orientée vers le live et la performance. Et donc, la proposition de Stahlplatte était que je sorte un disque sur une collection qui s'appelle Morovache, qui est une série de live, c'est-à-dire qu'on rentre dans un studio comme ici, on fait un live qui est enregistré et ça donne le CD, en fait. Et c'est pour ça que j'ai accepté à l'époque. Et Stahlplatte m'ont proposé ça en 2006, printemps 2006. Et ce qui s'est passé, bien sûr, comme on sait tous, en 2006, la guerre a eu lieu, moi j'étais là au Liban. Le projet a été retardé, repoussé. Il y a eu une première prise en studio en Hollande dont j'étais pas du tout content parce que j'avais quitté le Liban 3 jours après la guerre et je devais soudain enregistrer un disque. C'était l'enfer. Et entre le temps où j'ai eu l'invitation et le temps où le disque est sorti, ça a pris 2 ans. Et du coup, quand ce disque est sorti, c'était plus une archive pour moi. J'étais là, ok, c'est très sympa, j'adore cet objet, c'est très bien, mais c'est plus un objet historique qu'un objet d'actualité qui reflète vraiment, moi, ce que je fais. Mais quand même, il y a des pièces super là-dessus. Et la pièce qu'on va écouter, qui s'appelle Car Trash Toon, en fait partie, en fait.
On écoute ce morceau tout de suite.
I'm going to go to the hospital.
Il est devenu habituel pour moi de demander aux invités de ces émissions de jouer un morceau en live, un morceau ou plusieurs morceaux en live durant leurs interviews. Je l'ai fait aussi ce soir avec Tare Atwi, qui est l'invité de Rupture ce soir, va jouer un morceau en live dans les studios de Radio Liban dans quelques instants. Mais Tare m'a beaucoup étonné parce qu'il est venu à la radio non pas avec 18 synthétiseurs, 4 batteries et je ne sais combien de contrôleurs, mais simplement avec son laptop et un petit engin qu'il a posé à côté. Tare, comment se fait-il que tu travailles avec un matériel aussi restreint? Est-ce que ça fait partie des pratiques de l'électroacoustique ou c'est quelque chose qui est propre à toi?
Non, pas du tout. Ça ne fait pas partie forcément de l'électroacoustique. Ça fait partie des choix que j'ai fait en fait. Parce que moi, en 2004-2005, j'ai décidé de quitter Paris et de commencer à voyager. Et du coup, j'ai réduit et compacté mon matériel le plus possible. C'est-à-dire
afin de pouvoir voyager plus facilement.
Exactement.
En fait.
C'est-à-dire que j'ai quitté ma maison. Ma maison maintenant est une valise qui doit faire moins de 30 kilos pour ne pas payer d'excédent de poids. Et donc de là, j'ai pris le choix de bosser en digital et donc de choisir les machines et les programmes aussi d'ordinateurs qui vont avec. Et donc au départ, j'ai utilisé pas mal de machines qui existent sur le marché, comme des contrôleurs MIDI, des petites machines qu'on trouve comme ça. Et petit à petit, avec l'évolution de ma discipline et la concrétisation de plein de rêves qu'on a quand on étudie, je me suis mis à fabriquer mes machines et mes interfaces de jeu. C'est-à-dire que maintenant... c'est la pièce qu'on va écouter après. Mon travail est vraiment un travail de performance et pas de concert musical, où il s'agit d'articuler trois choses à la fois, qui sont la performance scénique et le mouvement corporel, la composition musicale et la fabrication et la programmation de machines et de logiciels, en fait.
Et ces trois facteurs doivent donc se retrouver dans une performance scénique.
Exactement. Dans tout le travail artistique que je fais, en fait, il y a cette articulation des trois éléments. C'est-à-dire que je ne compose pas sans me demander comment ça va être joué sur scène, avec quoi. Et quand je pars d'un type de mouvement, d'une certaine gestuelle corporelle, qui me donne des idées de composition, qui induit des mécanismes de fabrication ou de programmation. Mais quand tu fabriques une machine, ça te donne aussi des idées de mouvement, qui te donnent des idées de musicales. Donc c'est un triangle dans lequel je navigue en permanence et que j'interroge en permanence en travaillant.
Tes performances scéniques sont extrêmement physiques pour ton audience.
Oui.
On dirait vraiment que, bon, ça paraît un peu comme un cliché, mais on dirait vraiment que tu vis le morceau quand tu es sur scène. Mais en fait, je réalise maintenant que tu ne vis pas le morceau, que le morceau te vit et vice-versa, en fait.
Exactement, oui. Parce que, et justement, c'est là où je dis, je fais des performances et pas des concerts, parce que l'idée derrière ça, c'est que... je génère le son en direct et la structure musicale. Je ne suis pas comme un musicien classique qui est en train de compter et de jouer sur une structure ou dans une métrique ou une rythmique ou une grille, une gamme donnée en fait. Non, la chose est produite sur le moment et c'est le corps qui la vit.
Ouais.
Voilà. Et de là, il y a une très forte corrélation entre l'image visuelle de mon corps et de moi en train de jouer et le résultat sonore qu'on entend. Et de là, ça prête à confusion. Qui fait quoi, en fait? Qui dirige quoi? Est-ce que c'est moi qui dirige l'ordi? Est-ce que c'est l'ordi qui me dirige? Et moi, j'aime bien cette ambiguïté-là et ce dialogue-là qui s'installe sur mes performances, en fait.
C'est très particulier à tes performances, parce que souvent, quand on voit un musicien d'électronique, on va dire, il est derrière son laptop, extrêmement figé, ou bien avec un bras en avant, un bras en arrière, et le corps penché en avant.
Oui.
Et on a aussi souvent affaire à des gars comme Richard James, FX Twin, qui ne font absolument rien sur scène, qui est une sorte de subversion en fait du live et de la scène. Mais toi, ta scène, tu la vis de façon extrêmement différente.
En effet, parce que comme je te disais tout à l'heure, il a été très important pour moi dès le départ de
pouvoir être mobile, flexible.
Mobile, et ça c'est une chose, mais l'autre chose c'était d'engager les spectateurs dans ce qui se passe en fait, et de vivre cet instant avec les gens sur le moment. Et de là, par rapport à une musique expérimentale avec des sonorités ardues et complexes, et des formes complexes, la présence corporelle et la gestuelle donnent beaucoup de possibilités d'interpréter et d'interagir émotionnellement même avec ce qui se passe et avec cette musique-là. Et ça nous permet, de mon expérience, ça permet à plein de gens de comprendre. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à plein de situations, dans plein de situations où je jouais sur des places publiques, dans des pays où les gens n'avaient jamais vu ça, comme à Dubaï ou à Alexandrie, et où des vieux venaient après, ils étaient là, « Ah, mais c'est ça la musique électronique, on ne savait pas, c'est génial, tu fais comment ?» Et ça, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup aller vers les gens, en fait, et pas laisser juste les gens venir à moi. Je trouve que c'est de mon devoir d'aller vers les gens aussi.
À propos de Dubaï, ce prochain morceau, tu l'as composé pour la Biennale de Sharjah, si je ne me trompe pas.
Exact.
Et c'est un morceau assez particulier, c'est un morceau auquel tu fais souvent référence, auquel tu as souvent fait référence dans nos récentes conversations. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est particulier à ce titre qui s'appelle Undrum ?
Ah, alors, ce qui est particulier, déjà, l'expérience de Sharjah, c'est que cette année-là, pour l'édition de cette Biennale, j'étais l'artiste en résidence de la Biennale. Donc, invité pendant 4 mois à travailler sur une performance qui s'est appelé Undrum Strategies of Surviving Noise et qui relate mon expérience en 2006 où j'ai été arrêté par l'armée et torturé pendant 3 jours dans un interrogatoire où j'avais les yeux bandés et les mains ligotées. Et c'était ce qu'on va entendre sur Undrum, c'est cette expérience là retraduite en son. Et ma performance en fait sur scène, c'était le contraire de cet état de captivité, c'est-à-dire que j'ai construit une machine qui permettait, qui donnait toute son ampleur au mouvement corporel, où je jouais bras étendus et pieds écartés, et où j'avais toute l'amplitude du geste, en contradiction avec cet état de ligotement et d'enchaînement.
Séquestration.
En fait. Et puis le son là-dessus est très physique, c'est-à-dire que dans une salle ou dans une situation de live, la salle bouge et on tremble, comme moi je tremblais sous le son des bombes sans savoir où j'étais ou ce qui se passait en fait. Il y a beaucoup d'analogies comme ça. Et voilà, cette performance est très importante pour moi, pas juste par rapport à cette histoire personnelle, mais aussi par rapport à cette articulation des 3 éléments. C'est en fait à partir de cette performance que j'ai vraiment rompu avec l'aspect concert et enraciné beaucoup plus ma discipline dans la performance et dans l'acte live.